Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et de Wani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halo de Mandi.
Chienne Berry. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Ils deviennent récurrents en période de chaleur. Ces mois de mars, avril et mai sont devenus synonymes de délestage. Le consommateur malien vit cette situation depuis plusieurs années. C'est finalement devenu une habitude. L'énergie du Mali semble incapable de trouver une solution aux délestages et coupures pendant ces périodes de chaleur. Comment expliquer ces coupures intempestives en ces périodes? Quel est l'impact économique sur le pays et sur son industrie notamment? Quelles sont les solutions pour éviter les délestages intempestifs dans le pays? Avec nous sur ce plateau, le professeur Abdoulaye Niang, il est économiste. Makan Fofana de l'association malienne des consommateurs, l'ASCOMA, est au téléphone. Également Malik Diallo, chargé à la communication de l'énergie du Mali, au téléphone. Lundi 20 mars, je suis Ousmane Diadié Touré pour vous présenter cette émission qui est mise en onde par Nourundjiri.
Le Grand Dialogue.
Selon le responsable de l'association malienne des consommateurs, ces délestages freinent l'activité économique de plusieurs entreprises et entravent le bien-être de la population. Alors, Malik Diallo, vous êtes chargé à la communication de l'énergie du Mali. Merci d'être avec nous pour cette émission. Comment expliquez-vous ces délestages-là? On sait que l'énergie du Mali existe depuis le 14 octobre 1960. On est en 2017 et on connaît encore des délestages en période de chaleur au Mali. Comment vous l'expliquez?
Merci. Malik Diallo, je suis le chef de la cellule communication de l'énergie du Mali. Alors, pour qu'il y ait une disponibilité, c'est-à-dire une puissance pour répondre à la demande, il faut des investissements d'envergure, notamment au niveau des barrages, au niveau des unités de production qui peuvent être des centrales thermiques, des centrales hydrauliques ou même solaires. Aujourd'hui, EDM dispose, à l'heure où je vous parle, c'est vous qui parlez de délestage, mais nous ne parlons pas de délestage, il n'y a pas de délestage. Parce que, à l'heure où je vous parle, l'offre est supérieure à la demande. Et ce qui arrive, c'est dû à trois phénomènes, exactement les coupures actuelles, qui ne sont pas des coupures qui touchent dans des zones précises où il y a des travaux d'amélioration qui se font. Alors, il y a eu des perturbations à partir du mois de février, notamment le 21 février, parce que Bamako est dans un système d'interconnexion avec tous les pays de la sous-région.
Alors, est-ce que c'est seulement à Bamako qu'on connaît justement ces coupures récurrentes d'électricité? Est-ce que les autres régions aussi ne connaissent pas la même chose?
Non. Aujourd'hui, les régions qui sont sur le réseau interconnecté, c'est Kaï, c'est Ségou, c'est Sikasso et quelques d'autres villes, notamment Kouchala, Kita, Kassi, Koulikoro, naturellement. Donc, il n'y a pas de perturbations. Souvent, ça arrive à Koulikoro, des perturbations qui sont dues à la ligne, qui est une ligne en antenne, où présentement il y a des travaux de renforcement pour permettre à cette ligne qui alimente la ville, sur laquelle beaucoup d'industriels sont piqués, de pouvoir tenir. Donc je disais, le premier phénomène qui engendre cette coupure aujourd'hui, on est dans un système interconnecté. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que le réseau malien aujourd'hui est bouclé avec le réseau depuis le Bénin jusqu'à Nouakchott, c'est-à-dire de Cotonou à Nouakchott.
D'accord. Malik Diallo, je vous suggère juste de faire réagir également les autres invités et on revient à vous tout à l'heure.
J'arrive, il faut bien que j'explique ce pour lequel il y a les coupures pour qu'ils réagissent.
Allez-y, Monsieur Diallo.
Donc, je disais que ces réseaux, nous sommes dans un système d'interconnexion où Bamako est le nœud, c'est-à-dire le point de bouclage de ces réseaux. Et ces bouclages, on les a entamés le 21 février. Ceci engendre des perturbations parce qu'il faut ramener tous ces pays-là, c'est-à-dire le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Mali, le Sénégal, la Mauritanie, au même niveau de fréquence, de tension et d'intensité. Naturellement, ça amène des perturbations où les ingénieurs qui sont sur le réseau procèdent à des réglages. Ça, il y a des perturbations dues à ce couplage. Aujourd'hui, le seul pays avec lequel nous ne sommes pas bouclés dans la sous-région, c'est le Nigeria et le Niger. Ils seront certainement dans un proche avenir.
Merci.
Deuxième point.
Malik Diallo, je vous suggère juste de revenir, continuer ces points tout à l'heure. On a une durée très limitée dans le temps. Alors, juste le temps de faire réagir les autres invités également et je vous redonne la parole. Merci. Professeur Abdoulaye Niang, vous êtes économiste. L'offre, la demande dépasse l'offre. Malik Diallo l'a expliqué, il y a aussi cette forte démographie galopante dans les villes. Est-ce que c'est un facteur également qui compte?
Bon, d'abord, moi, je félicite la direction de l'énergie du Mali pour les délinquants. Parce que ça, c'est important. Nous n'avons pas commencé par là-bas, mais je crois qu'on arrivera à ce niveau-là.
Certainement.
Et il y a quand même un petit... Pour nous autres, c'est un peu difficile que ça soit... L'argumentaire soit que l'offre dépasse la demande. Et que nous autres, à notre âge, on n'arrive pas à dormir parce que simplement on n'a pas d'électricité. Et que cela est dû à du réglage qui aurait dû être fait avant la période chaude, avant que les vieilles personnes souffrent et meurent. Donc là c'est un peu difficile à comprendre. On dirait qu'il y a un problème de planification.
Alors on parle également de cette démographie galopante. Il y a de plus en plus de monde dans les cités urbaines, notamment
Bamako.
Il vous a dit
le Mali est le nœud et qu'il n'y a pas de problème. Il faut le prendre par ses mots en tant qu'économiste. S'il y a suffisamment de disponibilité, de ressources énergétiques, et que par rapport à la demande, il n'y a pas de raison que nous qui demandons, par exemple, moi j'ai une facture de 300 et quelques mille, même à l'heure actuelle, en moyenne, il n'y a pas de raison que très souvent on dort la nuit sans électricité. Et il n'y a pas de raison que nos usines d'or et autres ne soient pas connectées pour pouvoir réduire le coût quand même d'acquisition. Nous avons une usine aujourd'hui, bon, c'est vrai, il y a des difficultés pour brancher à l'énergie la moyenne tension. C'est disponible probablement. Mais si c'est le cas, il faut qu'ils aient une politique qui permet à des grands consommateurs d'avoir accès quand même à la tranquillité, à la sécurité énergétique.
Merci. Nous avons en ligne également l'association malienne des consommateurs, Makan Fofana. Alors, Makan Fofana, on a vu votre sortie, vous avez parlé de ces coupures d'électricité intempestives. Est-ce que vous pensez que c'est une fatalité en période de chaleur que chaque année que cela se produise au Mali?
Merci. Bonsoir à tous et à tous mes interlocuteurs et auditeurs. Merci à l'EDM. Mais ce que je dirais, c'est que c'est un peu déplorable que ce soit récurrent dans les 10 dernières années. Pratiquement, nous vivons toutes les années les mêmes situations. Et cette année, ça devient grave. Pourquoi? Parce que on a eu à élaborer ensemble, à voter un plan d'urgence 2017-2018 jusqu'à 2019-EDM pour éviter toutes les coupures. Et ils nous ont dit, non, quand vous acceptez ces plans, ça veut dire que non, il n'y aura pas de délestage. Et les 3 ans, quand même, ce qui est sûr et certain, on sera en train. C'est dommage. Et à moins d'un mois que nous soyons devant cette réalité. Ce qui donne M. Diallo comme raison, je crois qu'ils ont toute l'année pour faire des réglages. Ils ont toute l'année pour mettre à point ce qu'ils veulent mettre à point. Mais ce qui nous gêne, qu'on se dise un peu la vérité, c'est-à-dire qu'il y ait un peu de communication. Si ça ne va pas, qu'on sache que ça ne va pas et on est à tel niveau du problème. Ça vaut mieux que de nous faire endormir. Tout le monde sait que c'est le désertage qui commence.
Merci, merci Makan Fofana. Malik Diallo, vous êtes le patron donc de la cellule de communication de l'énergie du Mali. On a vu ces deux jours-ci, le professeur Niang en parlait tout à l'heure, beaucoup d'opérations de l'EDM. On parle notamment de l'AMINUSMA, de l'Assemblée nationale, de plusieurs services d'État qui ont été privés d'électricité pour non-paiement de factures. Est-ce que c'est une solution qui pourrait éventuellement nous soulager un tout petit peu et nous procurer un peu plus d'électricité?
Je vous remercie et je remercie l'ensemble des auditeurs. Avant de passer à ça, vous ne m'avez pas dit toutes les raisons. Je n'ai évoqué qu'une des raisons de perturbation et de futur actuel, qui est le couplage de l'ensemble des réseaux de la sous-région au niveau de Bamako. La deuxième raison, c'est les travaux d'amélioration. Et pour cela, il y a des communiqués qui passent. L'ORTM est dans la presse écrite pour annoncer les quartiers dans lesquels il y a des coupures pour l'amélioration justement de la distribution pour pouvoir assurer la continuité des services. Et il y a des incidents. Les incidents, nous enregistrons tous les jours. Qui connaît la circulation de Bamako, qui connaît comment les travaux se font à Bamako, tous les jours c'est un camion qui peut rentrer dans un support ou quelqu'un qui peut piocher dans un câble, et cela, nous ne le prévoyons pas. Donc voilà les trois raisons fondamentales de perturbation qui sont aujourd'hui sur le réseau. Sinon, un délestage est toujours suivi d'un plan de délestage. Et en tout cas, nous ne sommes pas en délestage. Nous sommes uniquement de ce qui arrive est dû à des travaux programmés, à des incidents ou à des réglages par rapport à nos fréquences. Maintenant, pourquoi c'est maintenant on fait ces réglages? Parce que le Centre national de conduite du Mali, les travaux, ne sont pas d'ailleurs totalement finis. Ils sont terminés et des ingénieurs ont quitté tous ces pays que j'ai cités pour venir faire le couplage de réseau ici à Bamako. Ils étaient logés là-bas à Olem et tous les matins, ils partaient au poste de Kalabankoro, c'est là que le gros du travail se passe.
Oui, mais Malik Diallo, pourquoi attendre justement cette période de grande chaleur pour faire ces différents réglages-là? Est-ce que ça n'aurait pu être fait avant?
Non, mais je vous dis que les travaux ne sont même pas totalement terminés parce que nous, on est pressé, justement. On est pressé de terminer avec ce centre pour pouvoir faire les réglages. Parce que au moment où ce centre n'existe pas, ce qui se fait, c'est que nos techniciens, on est connecté aux autres. Donc, le problème qui est posé à Féréké, le problème qui est posé à Manantali, le problème qui est posé à Sélingué, les techniciens s'appellent au téléphone pour comprendre. Et aujourd'hui, avec le CNC, l'ingénieur qui est au niveau du CNC, il est sur un ordinateur, il peut voir toutes les situations de Manantali, de Féréké, ou bien même d'une centrale qui est au niveau d'Abidjan. Et en fonction de ça, il pose des actes pour pouvoir régler. Alors, pouvoir régler ou faire des reports de charges.
Monsieur Diallo, vous aviez parlé tout à l'heure de la demande qui dépasse l'offre. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui l'énergie du Mali d'augmenter ses capacités pour répondre à la forte demande?
Je ne dis pas que la demande, je n'ai pas dit que la demande dépasse l'offre. J'ai dit aujourd'hui
l'offre dépasse la demande.
L'offre dépasse notre demande. Donc nous ne sommes pas en délancage. Ça veut dire que nous avons de la puissance aujourd'hui pour alimenter.
Merci. Alors, Allez-y.
Cette piste, voilà, on est dans le domaine technique des machines. C'est-à-dire qu'ici, aujourd'hui, on a la puissance. Mais demain, si un groupe craque pour X raisons, nous devenons très tranchants. Mais aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, Dieu merci, avec la coopération sous-régionale, nous avons suffisamment de capacités pour faire face à la charge.
Merci. Je vous suggère, messieurs, d'observer quelques secondes de pause et nous reviendrons continuer cette émission.
Retrouvez Studio Tamani sur les réseaux sociaux. Commentez sur Facebook et Twitter nos informations, nos photos et nos vidéos. Prolongez le débat sur Studio Tamani. Studio Tamani.
Période de chaleur, pourquoi autant de délestage? C'est le thème du grand dialogue d'aujourd'hui. Merci de rester connecté. Si vous venez de vous joindre à nous, donc bienvenue, professeur Abdoulaye Niang, vous êtes économiste. Quelles peuvent être les conséquences des perturbations sur les réseaux électriques, sur l'économie aujourd'hui et surtout sur l'industrie? Vous aviez parlé des mines tout à l'heure. Les hôpitaux ont un besoin énorme d'électricité, même si les médecins sont en grève.
Oui, les conséquences sont à la fois sociales, économiques et sécuritaires. Et c'est regrettable parce que nous étions venus, en tout cas, pour féliciter la gouvernance nouvelle de l'EDEME. Mais ce que notre co-débatteur s'évertue à dire n'est pas acceptable en tant que consommateur, en tant que coordination nationale de veille stratégique et citoyenne. C'est inadmissible que les trois raisons qui ont été évoquées, qu'il n'y ait pas eu une planification qui devait permettre de ne pas avoir l'indisponibilité, parce qu'il ne parle pas de laissage, mais il y a l'indisponibilité des ressources énergétiques. Et c'est ça le plus important. Donc les conséquences sont pour ma pauvre sœur qui fait du gingembre, donc pour vivre avec, ou bien qui vend de l'eau fraîche, il ne peut pas le faire. Et nos produits qui sont dans les frigos, mais aussi nos appareils. Donc les conséquences sont extraordinaires. Ça devait être planifié comme il faut en tant qu'ancien aussi du système des Nations Unies, donc représentant pour l'Afrique de l'Ouest de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, où j'ai travaillé avec ces OIG, ces organisations intergouvernementales. C'est tout à fait difficile de comprendre que le Mali étant un pays où la chaleur va être terrible pendant cette période-là, que c'est en ce moment qu'on est en train de faire le couplage, on est en train de faire le réglage, on est en train de... Ouais. Les incidents, il n'y a aucun problème. Mais les conséquences sont mesurables.
Alors sur l'industrie, par exemple, l'industrie qui fonctionne énormément...
C'est-à-dire à l'heure actuelle, s'il y avait un plan de délestage, tu pouvais dire à ton personnel, allez-y dormir dans la journée, venez la nuit travailler. Mais s'il n'y a pas un plan de délestage, ça veut dire que simplement que vous êtes soumis à la rigueur du hasard. Et là en ce moment, les conséquences sont catastrophiques.
Merci professeur Abdoulaye Niang. Makan Fofana de l'Association malienne des consommateurs. Certains se plaignent du fait que malgré les coupures d'électricité, les factures d'électricité demeurent encore chères. Alors, qu'est-ce que vous avez à répondre à cela?
Oui, merci. D'abord, je vais en revenir à... Je reviens à l'EDM pour dire que vraiment, je ne partage pas tout à fait les raisons qu'il a évoquées. Je dirais que il ne faut pas que l'arbre cache la forêt. Ce qui est sûr et certain, la production d'électricité a des problèmes au Mali. Et depuis toujours. Et tant qu'on ne s'attelle pas à faire un gros investissement dans ce sens, on ne sortira pas de ce boulot. Ce n'est pas possible. Un. Deux. Maintenant, pour en venir aux conséquences, ce qui est sûr et certain, c'est un carburant. En tant que consommateur, déjà le premier droit du consommateur, ça c'est la satisfaction des besoins. Ça c'est déjà foulé au pied. Deux, le besoin n'est pas satisfait, donc il n'y a pas la disponibilité. Et ce qu'on a, la petite disponibilité qu'il y a, ce qui est sûr et certain, ça c'est très mal fourni. Et en troisième lieu, ce qu'on nous vole aussi, c'est le droit aussi à l'information. On nous informe mal et on essaie de torpiller même l'information pour nous. Pourquoi? Qu'on nous dise la vérité. Il n'y a pas d'électricité au Mali. L'EDM se plaît à quatre pour louer des groupes qui les reviennent très cher. Et ces groupes appartiennent à qui? C'est ça le problème. Donc, il faut qu'on trouve une solution définitive à ces problèmes, qu'on n'en revienne pas chaque année. Les mêmes choses et les mêmes assurances et les mêmes résultats. C'est ça, justement, il faut changer. Et ce changement commence par où? Par l'EDM même. C'est ça. C'est ce qu'on nous a dit. C'est ce que nous avons dit en son temps. Commanditer même un audit au sein de l'EDM pour voir même leur système de gestion.
et maintenant après ça chercher des solutions.
Merci Makan Fofana.
Le problème c'est ça.
Merci Makan Fofana. Malik Diallo, hein, vous êtes le chargé, le patron donc de la cellule communication de l'énergie. Est-ce qu'il faut revoir carrément la politique énergétique de notre pays, hein, pour la rendre un peu plus efficace?
Alors, la politique énergétique, oui, en fait, aujourd'hui, ce que dit Makan dessus, il faut que des investissements suivent. Construire des barrages, des unités de production, et c'est de cela qu'il s'agit. Créer des infrastructures, c'est de cela qu'il s'agit.
Monsieur Diallo,
les infrastructures qui étaient planifiées et qui devraient venir, ces infrastructures aujourd'hui ne sont pas là. Regardez, Guyana, la première pierre a été posée depuis le 17 décembre 2013. Guyana devrait être sur le réseau. Guyana n'est pas là. À peine les travaux viennent de démarrer. Donc, en fait, les infrastructures, il faut qu'il y ait des infrastructures. Ça, c'est indéniable. Alors, vous m'avez posé une question que je n'avais pas répondu, les coupures. Pourquoi on est en train de couper les gens pour facturer un pays? Je ne sais pas si on a le temps encore de parler de cela.
Allez-y.
Mais ce que je veux... Ce que je veux vous dire par rapport sur ce sujet, c'est que en fait le recouvrement est une activité quotidienne de EDA. De lundi à vendredi, il y a du recouvrement. La donne qui a changé, c'est quoi? C'est que les plus hautes autorités de ce pays ont demandé l'assainissement de la gestion. Et le recouvrement est un des instruments, fait partie des actions d'assainissement. Et aujourd'hui, il ne faut pas que les gens pensent que l'État ne paye pas. Vous pouvez venir vérifier dans les comptes de EDM. La majorité des départements ministériels sont à jour. Je peux citer les affaires étrangères, je peux citer le ministère de la Femme, je peux citer le ministère de la Justice, je peux citer la présidente de la République, la primature, tous ces départements et tant d'autres.
Mais l'Assemblée nationale, hein, avait été privée de fourniture d'électricité pour non-paiement de factures. On parle également de la MINUSMA, de l'ORTM et même de la Maison de la Presse d'ailleurs.
Mais c'est sûr que l'électricité pour quelqu'un, toute personne qui reçoit sa facture, la facture a une date d'exigibilité et ça doit être réglé. L'État malien, il y a une sorte de solidarité autour du tarif. Le tarif national aujourd'hui subventionné par l'État malien, pour que ça soit acceptable pour les Maliens. Mais si ce tarif est encore subventionné et que les gens ne payent pas leurs factures, pensez que c'est acceptable ça? Donc il n'y a pas de raison qu'un client ne paye pas sa facture ou une institution ne paye pas sa facture. Ça relève vraiment de la gestion. Donc, que si l'Assemblée est en retard de paiement, c'est tout à fait normal. Parce que cette électricité qu'ils consomment, il y en a d'autres qui sont à jour, il faut les mettre à leur disposition. Parce qu'un kilowattheure consommé, non consommé, est mis à la disposition de notre client. Donc aujourd'hui, cette action est une action phare soutenue par les plus hautes autorités de ce pays.
Merci beaucoup Malik Diallo. Donc, professeur Abdramane Niang, on voit qu'il y a une nouvelle centrale solaire qui est en construction à Ségou. Qu'est-ce que cela va changer déjà, hein, dans la fourniture d'électricité du Mali?
Je pense que des sources alternatives telles que le solaire et demain l'uranium, il faut aller vers là. Les méthodes classiques sont de plus en plus difficiles à maintenir et il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas aller vers le solaire. Et le Mali est un des pays les plus ensoleillés et le coût de l'énergie solaire commence à baisser très sensiblement. Et il y avait eu à un moment donné des projets pour les maisons. On ne sait pas ce que c'est, qu'est-ce que c'est devenu parce qu'on voulait nous autres nous inscrire. Si on peut faire 300 000 francs d'électricité en moyenne à la maison, eh bien, si je peux trouver demain l'accès à l'énergie solaire, on va le faire. mais malheureusement, je crois que même ce projet est parti de l'autre côté. Donc, je crois que pour vraiment s'en sortir, il faut qu'on aille vers un système de co-entreprise et sortir l'État souvent dans ces choses-là, ou bien laisser l'État à une position minoritaire et encourager, y compris les très petites entreprises, à investir et réduire peut-être l'État à pas plus de 20% dans le capital et laisser les privés être en position de gestionnaire. Sinon, on a félicité cette fois-ci le président aussi bien que le directeur général pour avoir piqué sur les délinquants, hein, tels que l'Assemblée nationale, tels que l'Ortem. Mais après que leur chargé de communication...
Merci de ne pas avoir cité la maison de la presse.
Je ne vais pas le citer parce que je suis à la maison. Si quelqu'un ne le cite pas, mais c'est bon que vous nous avez rappelé. Mais c'est un peu compliqué que réellement l'explication qui est donnée pour qu'il n'y ait pas de disponibilité de l'électricité enlève un peu les points qu'on voulait leur donner pour l'autre partie.
Intéressant. Alors, Makan Fofana, hein, vous êtes de l'Association malienne des consommateurs. Que pensez-vous des opérations de ces derniers jours hein, qui visaient justement à priver d'électricité les non-payeurs? On a même parlé hein, éventuellement aujourd'hui de l'aéroport du Mali hein, qui avait été privé d'électricité momentanément dans la journée. Qu'est-ce que vous pensez de cette opération? Certains hommes de presse disent que c'est juste un coup médiatique hein, et que ça n'ira pas loin. Et quel est l'impact justement que ça pourrait éventuellement avoir sur la production d'électricité chez nous?
Bon. Et merci. La production d'électricité, c'est autre chose. En venant même aux coupures-là. C'est-à-dire, ce qui est sûr et certain, je ne vais pas les appeler les délinquants, mais ceci mérite d'être coupé. Pourquoi? Parce que le pauvre citoyen lambda, là, pour 2 000 francs, 3 000 francs est coupé. Et ces services-là, ce qu'on ne comprend pas, dans leur budget, il y a l'électricité qui est votée, mais le montant va directement dans une autre rubrique. C'est ce qu'on ne comprend pas. Donc, c'est la légèreté qui a fait qu'ils ont pu cumuler jusqu'à 100 millions, 200 millions. C'est incompréhensible.
Finalement, qui est à blâmer? Est-ce que c'est le DM? Est-ce que ce sont ceux qui ne payent pas ces factures-là? Parce que pour avoir quand même une facture de 100, 600, 700 millions, il faut avoir accumulé pendant un certain temps.
Non, moi je blâme l'EDM. Parce que un agent de l'EDM, chez moi là, il va pour 2 000 francs et me délaisse. Pour 2 000 francs. Mais il y a déjà des centaines de millions. Et ceux qui ont, ce sont les nantis qui refusent de payer et on oblige les pauvres à payer. C'est ça le problème. Donc, celui qui j'accuse, c'est l'EDM.
Alors, justement, on a Malick Diallo. Sur la même Malick Diallo, est-ce que vous voulez répondre à cela? Qui est à blâmer finalement? Pourquoi avoir attendu une telle accumulation de plusieurs millions avant de procéder? Vous l'aviez dit tout à l'heure, de lundi à vendredi, ça fait partie des prérogatives de l'énergie de recouvrer justement les factures. Pourquoi avoir attendu?
Alors, l'auditeur lambda effectivement penserait qu'on aurait attendu. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait, nous avons des agents dans le quartier chargés de logements et nous avons une agence centrale dédiée à tous les clients administratifs, industriels et les sociétés entreprises d'État. Et au sein de cette structure, nous avons ce que nous appelons des gestionnaires de grands comptes. Et ces gestionnaires de grands comptes ont des répondants dans chaque département et dans chaque unité industrielle, que nous appelons couramment les hommes énergie. Donc, une action est toujours engagée entre ceux-là, de la distribution, de la relève jusqu'à la distribution des factures, jusqu'à à la date limite de paiement, parce que chaque facture contient une date limite de paiement. Payer sa facture, en fait, c'est un acte de suivi, parce que tout le monde sait aujourd'hui que sans l'électricité, il n'y a même pas d'activité. Quand on arrive au bureau et que le courant coupe, tout le monde sort au dehors pour attendre que le courant arrive. Donc, en fait, c'est le premier rempart du développement économique et social même de ce pays. Donc, régler sa facture, c'est un lac de Thiou. Donc, aujourd'hui, c'est nos agents, plus les correspondants, travaillent dans ce sens pour que cela soit. Aujourd'hui, en fait, il y a eu tout ce tapage et tout, parce qu'effectivement, c'est l'Assemblée qui a été coupée. C'est une première. C'est une première. Ça, c'est vrai. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des actions de recouvrement, de relance, d'échange, de rencontre autour du sujet.
Aujourd'hui, est-ce que
la chose nouvelle dedans, c'est que nous avons l'accompagnement et le soutien des plus hautes autorités pour que réellement les factures soient payées et que l'EDM puisse faire face à sa mission de service public.
Merci beaucoup, Malick Diallo. Nous allons observer la seconde pause avant d'entamer la dernière partie de cette émission.
Un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Vous suivez le grand dialogue du Studio Tamani, période de chaleur. Pourquoi autant de délestas? C'est le thème donc du grand dialogue d'aujourd'hui. Malick Diallo était justement en train de nous expliquer. Malick Diallo, est-ce que ces opérations de recouvrement vont continuer?
Mais bien sûr, le recouvrement chez nous, c'est du quotidien, ça ne s'arrête jamais. Tant que nous émettons une facture, regardons le client après paiement. Le client a compteur après paiement et il paye d'abord avant de consommer. Ceux qui ont des compteurs conventionnels, ils payent d'abord pour consommer. Ils consomment d'abord et c'est après qu'ils payent. Donc, il faut que les gens se disent que j'ai consommé, on m'a apporté une prestation, la prestation. Dès qu'on m'apporte la facture, il faut que je règle ma facture. Et c'est cela que j'aide tout le monde. Régler sa facture, c'est aider à mieux servir, tout simplement.
Merci Malick Diallo. Professeur Abdoulaye Niang, on voit que certains experts disent que le Mali utilise une des options les plus chères de production d'électricité quand on voit le gasoil qui est encore utilisé dans le groupe électrogène pour fournir l'électricité. Pourtant, on a des centrales hydroélectriques au-delà de Manantali, Sotuba, Yasselenge également. Alors, comment vous appréhendez ça? Est-ce qu'il y a d'autres options d'exploitation d'électricité qu'on pourrait éventuellement privilégier?
Oui, il faut varier les sources de production.
Mis à part le solaire, bien entendu. Hein. On parle du gaz de Bourakabougou, par exemple.
Oui, il y a le gaz, mais il y a l'uranium, en réalité. Avant que je ne sorte des Nations Unies en 2009, avec le président Tandja, on avait voulu faire deux centrales pour l'Afrique de l'Ouest, les pays de la CEDEAO. Et les études étaient très avancées. J'avais pris un consultant pendant 3 mois pour continuer ce travail-là. Je pense qu'aujourd'hui, il faut encore aller vers là. Il faut installer quelques centrales. Comme il vient de le dire, le Nigeria n'est pas connecté. Mais en réalité, à part du Niger, on peut produire suffisamment d'électricité pour satisfaire la demande de l'Afrique de l'Ouest et surtout les grandes industries et à moindre coût. C'est vrai que il y a des risques d'accident, mais qui dit la vie n'est que risque.
Question, est-ce qu'il faut minimiser ces risques-là? Est-ce qu'il ne faut pas s'entourer de
ça veut dire simplement qu'il faut des gens sérieux, il faut des gens bien formés, il faut adopter les dernières technologies.
Est-ce que l'éolienne serait viable au Mali, par exemple?
Oui, toutes ces sources, il ne faut pas les exclure. J'ai bien dit de Californie, mais il y a des champs d'éoliennes à perte de vue. Donc réellement, il faut privatiser davantage la production d'énergie et sortir l'État et mettre l'État dans une position de stimulation du secteur privé pour pouvoir aller à ça. Et je crois qu'avec ça, les subventions qu'on donne, au lieu que ce soit des subventions à la consommation, qu'on donne des subventions pour le capital d'investissement, mais avec les privés, avec une gestion privée. Parce que je peux être sûr que le gasoil dont vous avez parlé maintenant, si on regarde, il doit avoir beaucoup de surfacturation, il doit avoir beaucoup de fraude là-dedans. Je ne dis pas avec le jeune qui est là aujourd'hui, mais nous sommes habitués au Mali, que partout où on se trouve, nous sommes en position de rente pour frauder le citoyen du Mali. Et la veille citoyenne, doit continuer son travail, parce que nous sommes une organisation jeune, nous devons continuer notre travail pour réellement que l'utilisation des ressources humaines, l'intelligence et l'énergie soit selon un modèle qui minimise la déviation comportementale par rapport à l'intégrité et par rapport à la fraude.
Merci. Makan Fofana de l'Association malienne des consommateurs. On voit également qu'il y a cette belle initiative de l'américo-sénégalais Econ qui s'appelle Lighting Africa avec d'ailleurs les Maliens. Est-ce que vous, au niveau de l'ASCOMA, vous avez par exemple pensé à proposer à l'EDM de travailler avec ces gens-là?
Non, nous avons toujours travaillé avec l'EDM. L'ASCOMA a toujours travaillé avec l'EDM. Nous travaillons et avec l'EDM et avec l'AES en amont. Mais ce qui est le problème, ce n'est pas que c'est la volonté politique qui manque. Quelle que soit l'initiative, s'il n'y a pas la volonté politique, ça ne peut pas aller. C'est ça. Notre problème, c'est ça. Il a parlé tantôt de la centrale de Ségou, la centrale de Kati et de Kita. Mais maintenant, ceci devait être en état de production maintenant. Mais pourquoi ils traînent? C'est ça, justement. Notre problème n'est pas que les consommateurs ne font pas quelque chose ou bien la volonté, l'initiative manque à l'EDM ou bien à l'AER. Non.
Est-ce que privatiser, par exemple, l'énergie serait une bonne solution ou permettre à d'autres privés d'investir et de pouvoir revendre l'électricité aux Maliens? Est-ce que c'est une option?
C'est une option. Nous sommes d'accord. Nous sommes partants. Ce qui est sûr et certain, c'est une solution alternative. Tout comme ce que l'AR est en train de faire maintenant, distribuer des kits individuels. Tout ça, c'est bon. Mais chez nous, c'est quoi? C'est-à-dire, par exemple, on est parti à la Madère tout de suite. C'est la privatisation toujours. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'État a mis de l'argent. Les gens ont toujours menti qu'il y a de l'électricité. L'électricité, au lieu que ce soit moins cher, ça s'est revenu tellement cher aux consommateurs que ce n'était même plus la peine. C'est ça tout le problème. Le privé est d'accord. Mais tant que l'État ne met pas sa volonté en jeu, ce qui est sûr et certain, on ne bougera pas. C'est ça le problème.
Merci.
Ce n'est pas une question d'initiative, c'est une question de volonté politique. Imaginez où était la Guinée. Mais dans 2 ans, nous allons importer avec la Guinée. C'est ça. C'est-à-dire, le transport là, ce que ça nous coûte là, les transports d'énergie, on n'a pas besoin de ça. Ça nous coûte tellement qu'il est préférable que nous ayons nos propres ressources ici.
Merci Makan Fofana. Malick Diallo est également en ligne. Malick Diallo qui est donc de l'énergie du Mali. Quelle est la solution rapide qui peut être trouvée aujourd'hui pour soulager les Maliens?
Alors, c'est d'investir et d'avoir une vision politique. Comme nous l'avons dit, les sources alternatives de production, effectivement, EDM aujourd'hui est sur cette voie. Nous avons plusieurs centres aujourd'hui qui sont hybridés sur le territoire. Il y a malheureusement des centres solaires qui viennent d'être cités, Kita, Ségou, avec dans le cadre du partenariat public-privé, qui n'arrive pas à démarrer. Mais nous, de notre côté, nous essayons de faire notre petit chemin dans ce domaine. Et c'est comme ça que nous avions plusieurs centres aujourd'hui qui sont hybridés. Je peux citer Djéman, je peux citer Minara, je peux citer Koro, Vantas ou Tourinia. Donc, c'est cela. Aujourd'hui, EDM a pris comme option tous les centres secondaires de les hybrider. De les hybrider, ne plus aller en gasoil. Alors, en groupe fermé. Alors, tantôt, on parlait de Manantali. Manantali, il faut savoir que Manantali n'appartient pas au Mali, ça appartient aux 3 pays. Nous avons 52% de la production de Manantali.
Aux 4 pays d'ailleurs, avec la Guinée maintenant.
Avec la Guinée qui va s'ajouter bientôt. Donc, aujourd'hui, la répartition est telle que les 200 mégas qui produisent Manantali, les 52% appartiennent au Mali. Le reste,
le Sénégal et la Mauritanie se départagent. C'est la même chose pour Célou. Célou, sauf qu'on n'a pas 52% là-bas. Là, c'est fictif, c'est un partage équitable 33-33%. Mais maintenant, la seule propriété des barrages de EDM, c'est Félingue qui fait 44 mégas, qui font un palais, et le petit barrage de Sotiba, 5 mégas. Donc aujourd'hui, cette puissance, nos propres unités, ne permettent pas de couvrir la demande. Donc nous avons heureusement, avec l'interconnection, nous faisons de l'exportation, nous importons de l'énergie avec des sociétés fortes telles que la CIE, la Somelec de la Mauritanie et la Somelec de Dakar.
Alors, juste rapidement, est-ce que par exemple le gaz de Bourakebougou, hein, où on a déjà conduit des phases tests de production d'électricité, on a vu que ça fonctionnait, est-ce que ce n'est pas une des options justement que l'énergie pourrait éventuellement privilégier quand on voit que les promoteurs avaient annoncé pouvoir électrifier toute la ville de Kati déjà en phase test?
Oui, mais seulement il faut pouvoir le faire. Vous voyez, on parle de ces deux grandes centrales solaires au Mali, Sédou 33 mégas, et puis de l'autre côté, Kita 50 mégas. Mais depuis des années, on en parle jusque-là, on en est là. Il y en a démarré. Par contre, ce que vous avez vu à Wélé-Sébougou est une centrale hybride. Donc, c'est ce que j'ai dit, tous nos centres secondaires que nous reprenons aujourd'hui, que ce soit des centres de la Madère ou bien des nouvelles créations de l'EDEM, nous essayons de les hybrider. C'est-à-dire, le jour, nous fonctionnons entièrement sur le soleil, et puisque nous n'avions pas de possibilité de stockage, la nuit, nous basculons sur le groupe.
D'accord.
Donc,
alors,
c'est ce que l'EDEM est en train de faire aujourd'hui.
Quand est-ce que le Malien pourrait justement avoir, hein, sans coupure, sans délestage du courant à profusion, surtout en période de chaleur? Qu'est-ce qu'on peut faire pour soulager les Maliens en cette période de chaleur?
Oui, en fait, c'est le souci de l'ici, parce que nous sommes tous clients. Je suis aussi client d'EDEM, je suis à l'humanité. Et je suis dans le quartier, effectivement, avec la population. Aujourd'hui, il y a à aller investir, c'est des investissements aujourd'hui qu'il faut faire dans le domaine de la production. Et tout ce qu'on a comme projet, il faut pouvoir l'entrancher et le boucler. Nous avons ce projet de deux centrales solaires dont nous venons de parler. Nous avons le projet de la centrale de Guinée. Nous avons le projet de la centrale de Kenya. Nous avons le projet de centrale de Toussa. Il faut pouvoir boucler. Ces projets, quand on boucle ces projets, il n'y a pas de problème. Et déjà, si ces projets qui devraient être sur le réseau depuis 2016, devraient être sur le réseau et qui aujourd'hui n'ont même pas démarré. Donc il s'agit de vraiment d'investir et de créer des unités et avoir les visions politiques nécessaires.
Merci Malik Diallo. Professeur Abdelanyang, une dernière question. 1960-2017, est-ce que vous comprenez justement qu'on soit obligé de passer par une interconnexion ou qu'on ait encore des pannes d'électricité? Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui très rapidement pour soulager le Malien?
L'interconnexion est une bonne chose. L'interdépendance est une très bonne chose. Ça, c'est l'intégration économique. Mais ne pas avoir la disponibilité n'est pas acceptable. Et je pense qu'il y a une question fondamentale que vous avez posée. Le gaz de Kati, il n'a pas voulu répondre à ça. Parce que simplement, c'est un autre privé qui l'a. Il n'a pas voulu couvrir dans l'assainissement le vol, le piratage qui est fait sur nos lignes normales avec des agents de l'EDM qui aussi jouent sur la santé de l'EDM. Donc l'assainissement doit continuer. Nous encourageons la nouvelle direction de continuer l'assainissement dans toutes les directions.
Merci mesdames et messieurs, ceci met un terme à notre émission d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez la retrouver sur notre site www.studiotamani.org. C'est là ainsi que toutes les autres. Cette émission a été réalisée par Ibrahim Aran Diallo. Nourundiré était à la mise en onde. Salim Diouara à la régie vidéo. Merci à vous mes chers invités. Je suis Ousmane Diadie Touré à la présentation. Merci.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Et de Wani Wamakaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry. Halo de Mandi.
Chenne Berry. Sigi Kafoba.